17h23, avant d'aller rejoindre Pierre-Yves McSween, vous dire que TVA rapporte qu'un petit avion a fait un atterrissage d'urgence sur le terrain d'un club de golf à Saint-Jérôme. J'ai un petit sourire dans la voix parce qu'il semble que ça se soit bien terminé. Et ce qu'on apprend dans la dépêche de TVA, c'est que l'avion s'est posé au trou numéro 9. Donc voilà, on sympathise avec le foreman du... Le contremaître du terrain de golf, probablement qu'il va devoir retravailler ce qu'on appelle son green. Là-dessus, on va rejoindre Pierre-Yves McSween. Salut Pierre-Yves.
Oui, il est en fin de saison au moins, Patrick.
Oui.
On voit ça du bon côté.
Ben, écoute, il y a certaines saisons où on peut tirer ça là, jusqu'à la fin du mois de novembre, des fois. Là.
Les balles vont planer. OK, on vient.
Recycle-toi pas dans l'humour, Pierre-Yves.
D'accord,
okay?
D'accord.
Mais c'est ce qui est drôle, c'est que t'es pas si drôle que ça, fait que ça en devient drôle, tu comprends?
Oups, c'est de l'humour absurde, Patrick. Tu comprendras un jour. On va voir les Denis Drolet, là. Ces vieux bons de l'humour.
OK, Pierre-Yves Drolet. D'abord, on va parler de Desjardins. Écoute, la police, c'est sorti en dernière heure. Là. J'ai vu ça sur le site de la presse. La police qui soupçonne qu'il y a des courtiers en hypothèque et en assurance de la région de Québec qui ont acquis ou qui ont tenté d'acquérir les informations personnelles de certains des membres de Desjardins qui ont été piratés. Écoute, quand tu lis cette dépêche-là, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est courtier, soit en hypothèque ou en assurance? Avec ces données-là?
Hey, c'est une bombe, premièrement, mais imagine, tu as une liste de 2,9 millions de membres avec leur âge, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur numéro d'assurance sociale. Tu peux faire du profilage et décider d'appeler des clientèles susceptibles d'être propriétaires et de renouer leur hypothèque. Une fois que tu les appelles, tu peux voir leur situation pour avoir un premier contact. C'est majeur, mais ce qui est fou, Patrick, c'est vraiment une bombe. Tu y penses-tu? Des gens qui se disent professionnels du conseil. Et les courtiers s'entendent souvent dire qu'ils sont autre chose que des vendeurs de prêts. Mm-hmm. Ils sont là pour accompagner leurs clients, pour les aider. C'est dans le fond des gens qui s'en vont chez les clients, tu sais, qui font du démarchage et qui disent aux clients, je peux t'avoir le meilleur taux. Ils se reviennent vers les banques, ils ont signé, mettons, je sais pas moi, des dizaines de millions de prêts. Ils disent, tiens, on te vend un bloc de clients. Et donc, comme je te vends un bloc de clients, tu vas me faire un bon prêt, un bon taux pour mes clients et tu vas me payer une cote, tu sais. Et là, c'est les agences du type, là je dirais pas les noms qui sont dans l'enquête, on sait pas c'est qui, mais c'est type multiprêt, hypothéca et autres. Mmh. On sait pas c'est quoi la compagnie, on sait pas c'est qui, mais c'est ce genre de travail-là. Mais ce qui est fou, c'est que déontologiquement, dans le monde financier, et là, ne ris pas, t'es supposé de travailler pour ton client. Et là... Tu viens pas voler des clients, tu travailles pour eux, mais tu t'en vas voler leurs informations personnelles ou les marchander pour éventuellement avoir un avantage concurrentiel sur les autres courtiers.
OK, je t'arrête une seconde. Ce que tu nous dis, là, OK, parce que si vous venez de vous joindre à nous, là, ce que la police soupçonne, c'est que des courtiers en hypothèque et en assurance de la région de Québec auraient acquis ou tenté d'acquérir des informations personnelles de membres de Desjardins là, dans la fuite de renseignements personnels. Fait que ce que tu nous dis, Pierre-Yves, c'est ces gens-là voulaient pas ces informations-là pour frauder, mais pour avoir une sorte d'avantage sur le client lui-même.
Ben c'est ce que je pense, parce que veux pas, quand t'es courtier hypothécaire, le gros avantage, c'est d'avoir une liste de clients à démarcher. Tu sais, t'es chez vous, là, faut que tu trouves des clients pour les banques. Faut que tu te dépêches, faut que t'en trouves. Puis là, t'as une liste de clients avec leur nom, le numéro de téléphone, puis leurs données personnelles. Ça te permet-tu de les appeler, tu penses? Si tu vois Pierre-Yves, 13 ans, de la région de Québec, tu l'appelles pas, mais Roger Tremblay, de 38 ans, avec une blonde, tu sais, puis t'as des informations sur où il demeure, tu peux avoir une idée de est-ce qu'ils ont une maison, puis les appeler pour voir s'ils vont renouveler leur prêt hypothécaire prochainement. Y as-tu pensé? Donc, d'un point de vue, moi, j'étais persuadé au début que c'était plus une organisation du type plus criminel.
Non, mais il y a peut-être ça aussi, Pierre-Yves.
Il y a peut-être ça, mais tu sais, je pensais pas que des courtiers diraient « Hey, nous, on a un code de déontologie, là. Mais sais-tu quoi? Le kid qui a volé les informations, on va l'approcher, puis on va lui demander de nous les vendre, nous les procurer. » C'est quand même spécial, Patrick, là. C'est comme quelqu'un qui essaie de...
Mais Pierre-Yves, si c'est vrai, si ça s'avère, là, OK, et c'est là, quand même moins grave... que de te faire frauder. Ben oui, voler ton identité, puis soudainement, tu es responsable d'un prêt d'un prêt pour un achat de voiture ou une hypothèque.
À condition que ce soit les seuls acheteurs potentiels. Parce que là, ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait eu un lien, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu le crime organisé ou autres fraudeurs qui ont été les premiers instigateurs de la liste. Mais la liste, après ça, tu peux la multiplier. Une fois que tu l'as vendue à des voleurs ou des fraudeurs, tu peux aussi la vendre à des gens qui veulent avoir accès à la liste. On ne sait pas ici si c'est en deuxième tour. T'sais, est-ce que c'est eux qui ont initié la vente ou c'est un deuxième tour de vente, c'est-à-dire que c'est d'autres personnes qui voulaient aussi la liste, sachant qu'il y a un vol de liste.
OK, parle-moi du dur retour sur Terre pour les compagnies de cannabis.
Hey, dur retour sur Terre, on parle de valeur de Exo puis de Canopy Growth qui remonte à 2017. Là. Ça veut dire que les actions qui ont augmenté dans les dernières années et qui ont fait faire de l'argent à des gens. J'ai des gens qui m'ont appelé souvent me disant « Hey, là, pourquoi tu dis pas au monde d'investir là-dedans? » Mais je dis « C'est le fun, la raide de la volatilité et de la spéculation. » Mais il y a trois facteurs intéressants là-dedans. Le premier, c'est que du pot, ça demeure une activité agricole. Mais la deuxième chose, c'est que c'est une activité réglementée. Donc, tu peux pas multiplier les pains comme tu veux. Et trois, il y a un marché noir. Donc, tu as une activité réglementée. Tu fais pousser du pot, oui, tu as l'avantage parce que tu as un permis ou tu as un client qui est gouvernement à certains endroits ou le marché privé ou le marché médical, mais le pot au niveau du marché noir continue à te faire la concurrence et surtout l'adhésion sociale. Ce qu'on se rend compte, c'est que les ventes ne sont pas à hauteur de ce qu'on pensait. Alors, toi Patrick, moi, le voisin, on a tous une vision différente du pot. On a une acceptabilité, oui, légale maintenant. Mais est-ce que l'acceptabilité sociale est rendue assez forte pour commencer à faire consommer mon oncle Pierre, mon oncle Jacques, mes frères, mes sœurs, mes amis, les enfants de ceux-ci? Donc, l'affaire avec le pot, c'est on a dit que le monde avait pensé que tout le monde se garocherait dans le pot légal puis que la SQDC deviendrait de la nouvelle SAQ. Tu sais, c'est 1,8% des ventes de la SAQ, là. On est loin, loin des bénéfices. Là. On est loin, loin, loin.
Ce que tu me dis, c'est que les gens préfèrent encore la drogue la plus vieille et la plus légale, l'alcool.
Mais c'est surtout dans la construction sociale. Oui. Mettons que ton gars va te dire, Patrick, papa, j'ai pris une bière hier, puis il y a 13, 14 ans, tu vas me dire, ouais, c'est ordinaire, mais hey, ça fait partie du rite de passage. Mais si ton fils te dit, papa, j'ai un kilo de pot, là, puis hey, je te dis, quoi, mes amis, on fume de ce temps-ci. Ta réaction va être différente, même si c'est aussi légal. Tu comprends-tu? Ta perception va être différente. Donc, un jour, on va tomber peut-être dans les bonbons, les muffins, le chocolat, la bière aux potes, et là, ça va faire en sorte qu'il y aura plus de consommation.
Bon appétit, Pierre-Yves.
Oui.
Merci. Salut. OK, ciao. 17h30.